Écoutez, je vous remercie d'être venu ici pour assister à ce débat sur le thème littérature adulte et littérature de jeunesse, quelles frontières. Nous allons avoir avec nous, on va commencer par les dames, évidemment, donc Nathalie Legendre, qui est un auteur de science-fiction pour la jeunesse, qui est bien connu pour avoir écrit plein de livres depuis Dans les larmes de Gaïa, et quelques autres, Moussa Oussa, Automate, Les Orphelins de Naja, 49302, et récemment deux ouvrages, c'est Oscar Jeunesse, Graf in Love, si je me souviens bien, et Brune et Jules, qui sont des romans sentimentaux, on peut le dire comme ça, pas du tout, des histoires d'amour quand même à la base, pas du tout.
Non, les histoires d'amour, ça n'existe pas. Graf in Love est un petit peu sentimental, on va dire, mais un petit peu, Brune et Jules, pas du tout, absolument pas. J'en dirais pas
histoire
plus
de société.
SF, ouais, voilà.
Ou histoire de société, on s'arrêtera là. Éric Lhomme, donc, qui est un écrivain bien connu, puisqu'il publie de la fantasy, de la science-fiction pour la jeunesse, donc Le Livre des Étoiles, la série du Maître des Brisants, Phénomène, évidemment. Et là, actuellement, il est en train de travailler sur une série très, très, très particulière, puisqu'ils étaient à l'origine deux auteurs, donc Pierre Bottero et Éric Lhomme. Pour écrire la série A comme association, et malheureusement Pierre Bottero nous ayant prématurément quitté, ben Eric finit la série tout seul, donc là Pierre Bottero a pu écrire 2 tomes et Eric 2, et donc c'est Eric qui finira la série, qui sera en 8 volumes. Nous avons également avec nous China Mieville, qui est un auteur britannique, si je me souviens bien, anglais, ouais. J'ai eu peur. Je me méfie maintenant. Un auteur anglais qui écrit des romans qui ont fait beaucoup parler d'eux en France, puisqu'on a Perdido, Street Station, Les Scarifiés et 2 autres. J'ai tout noté pour les pannes moteurs, Le Roi des Rats et Le Concile de Fer. Et on vient d'avoir récemment un livre très 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 intéressant qui s'appelle L'Ombre en français, dont on va beaucoup parler maintenant, évidemment. Et le dernier présent, c'est Scott Westerfeld. Donc là, je crois que vous connaissez le nom, puisque après avoir eu quelques traductions de romans pour les adultes en France, L'IA et son double, la série Succession chez Pocket, on a pu enfin découvrir sa production pour un plus jeune public, avec évidemment le cycle de Uglies, qui a eu un succès vraiment considérable chez nous. La série Midnighters également, qui est très intéressante. Et là, actuellement, on a la traduction de sa dernière trilogie, Léviathan, dont le tome 1 est sorti, qui est un roman steampunk, d'ailleurs. Voilà, ça change beaucoup de ce qu'on avait lu de Scott Westerfeld jusqu'à présent, le steampunk. Donc là, avant de poser la question des frontières... à proprement parler, je voudrais demander à nos amis invités anglo-saxons comment ça se passe, c'est quoi la production de littérature de jeunesse en Angleterre, en Australie et peut-être même aux États-Unis, quelles sont les catégories d'âge qui existent. Nous en France, on a en gros jeunesse adulte, éventuellement on a des romans pour les adolescents, une espèce de magma. Les âges ne sont pas toujours très, très définis, ça change beaucoup en fonction des éditeurs, en fonction des collections. Qu'en est-il du marché dans les pays anglo-saxons? Comment est-ce découpé par tranche d'âge? Alors, on va attendre que le traducteur ait fini de murmurer à l'oreille des auteurs. Et puis, je pense que Lionel... et j'ai oublié de vous présenter Lionel Davos, d'ailleurs, notre traducteur, excusez-moi, qui va faire qui a le périlleux devoir de traduire pour 2 personnes en même temps, ce qui n'est pas très simple. Alors, China comprend bien le français, donc ça fera un petit souci en moins. Donc, China ne comprend pas du tout le français.
C'est parfait.
Ouais. Et je précise que Lionel Davos est auteur également, et je vous recommande ses livres, La volonté du dragon, par exemple... Qui est très bien, et son recueil de nouvelles, L'importance de ton regard. Voilà. Donc voilà, la question, China.
Premièrement, j'ai honte que je ne peux pas dire tout ce que je veux dire en français, donc je suis désolé, mais je vais parler en anglais. I think in England, there is a debate about age bands, and marketing in publishers want very much to subdivide the books into as many age bands as they can. And a lot of writers are very resistant to this. Broadly, we would have children's books, young adult books, and adult books. But the category of children's books itself is controversial, although I think it's a very useful one. And the young adult book, which is a marketing category, is the one which is most prevalent now, I think.
Donc en Angleterre, il y a un peu un débat entre les différentes catégories et limites d'âge. C'est principalement quand même un outil marketing pour les éditeurs, puisqu'ils aimeraient pouvoir finalement diviser les livres en autant de catégories d'âge qu'ils peuvent. Et mes écrivains résistent quand même beaucoup à cette tendance. Idéalement, les écrivains diraient simplement il y a en gros trois catégories, la littérature pour enfants, la littérature plus ou moins pour adolescents, jeunes adultes, et puis la littérature adulte. Bon, alors la catégorie déjà de livres pour enfants peut susciter la controverse, mais bon, je considère que c'est quand même une catégorie qui peut être assez utile. Mais dans la littérature jeunesse, c'est quand même principalement donc, ce qu'ils appellent la young adult literature, la littérature pour jeunes adultes, donc plus ou moins adolescence, qui recoupe pas mal la littérature jeunesse en France. Et c'est un outil marketing, mais c'est quand même un outil utile, et c'est le gros du marché pour la jeunesse en ce moment.
D'accord.
I think in the U.S. the two main categories for adolescents are middle grade and young adult. And middle grade is sort of 10 to 12, and young adult is 12 up.
Aux États-Unis, la littérature pour adolescents en sens large, disons qu'il y a plus ou moins deux catégories, ce qu'on appelle la middle grade, qui recouvre les catégories d'âge allant de 10 à 12 ans, et la littérature pour jeunes adultes, c'est-à-dire 12 ans et plus.
But of course, readers are much more complicated, and readers will read up. They'll read things 3 years older. You know, I'm sure many people here read crazy things when they were little kids. I read The Rise and Fall of the Third Reich when I was 12 years old. And I think everybody reads in lots of different directions. Adults read YA. So I think, you know, readers are wonderful in the way they surprise you in terms of what they do and how they approach your work and approach reading as a game to you know, to go in different directions and to see what you feel like reading today.
Mais je pense que les lecteurs sont plus compliqués que ces catégories-là. Beaucoup de personnes lisent au-delà de la catégorie d'âge recommandée pour les livres, peut-être 3 ans, jusqu'à 3 ans de plus. Je suis sûr qu'il y a ici pas mal de personnes qui ont lu des trucs un peu fous quand ils étaient enfants. Moi, pour ma part, j'ai lu La montée et la chute du troisième Reich quand j'avais 12 ans. Donc, je pense que les lecteurs aiment aller dans un tas de directions différentes. Les adultes lisent de la littérature jeunesse, par exemple. Je pense que c'est ce qu'il y a de merveilleux avec les lecteurs, c'est qu'ils vous surprennent régulièrement quant à la direction qu'ils veulent prendre. Finalement, la lecture, pour eux, c'est un jeu. Et ils regardent juste ce qu'ils ont envie de lire aujourd'hui, en particulier, plus que se préoccuper des catégories d'âge.
D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric ou Nathalie, de ce qui a été dit? C'est artificiel, ces catégories d'âge? Ce sont des étiquettes marketing? Ou vous, spontanément, quand vous écrivez des livres, vous tenez compte d'un lecteur imaginaire et d'un âge spécifique? Nathalie, très courageusement, passe la parole à Eric.
Non, c'est pas courageux. Non, ça n'a rien. Tu me connais, Stéphane.
Oui.
Je sais pas si on écrit pour une tranche d'âge très définie. Il se trouve que ce qu'on a écrit, une certaine tranche d'âge peut s'y retrouver. Moi, j'échappe un peu à la catégorie, aux deux catégories qui viennent d'être définies, puisque j'ai tendance à penser que mon lectorat, c'est les 10-15 à peu près. Donc ça recouvrirait vraiment les deux à la fois. Après, comme il a été dit, les lecteurs trouvent dans les livres ce qu'ils ont envie d'y trouver. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant quand on écrit pour la jeunesse, c'est d'offrir dans son livre tous ces niveaux de lecture qui permettront à chacun d'y trouver leur compte, adultes compris. La difficulté, après, réside à mon avis davantage du côté des éditeurs qui vont, par le biais du marketing, orienter la cible en mettant une couverture peut-être particulièrement enfantine ou alors carrément un petit peu plus adulte, et le lectorat va, aura tendance à se laisser influencer par la façon dont l'éditeur va, va présenter le livre.
If I may?
Oui, oui.
Leviathan, my current series, is illustrated, and so many of the publishing people in the company thought it would be younger because of that. But the very first piece of fan mail I got was from an officer in the Australian Army who picked it up on his way to Afghanistan and was sharing it with his friends, you know, with his officer buddies. So I think, you know, and he was drawn in by the illustrations because they had a look that, that spoke to him, so...
Ben, pour rebondir là-dessus, donc la série Léviathan, qui est en train d'être traduite en ce moment, c'est une série qui est illustrée. Et pour cette raison, les éditeurs pensaient que ça s'adressait plutôt à un public plus jeune. Mais en fait, la première lettre de lecteur que j'ai reçue concernant cette série-là, elle venait d'un officier de l'armée australienne qui est tombé dessus sur le moment où il allait partir en Afghanistan. Et il a partagé ça avec ses copains officiers de l'armée. Et en fait, il a été attiré justement par cet aspect illustré. Donc,
a thing to bear in mind is that the way marketing categories work, the claims that marketing makes are all lies. They know this. This is part of how it works. So, on the one hand, people like army officers are really enjoying books supposedly for children. On the other hand, when I wrote *En London*, *L'Ombre*, and we were talking about marketing it, and they said, "We're going to market it as a 10 to 12-year-old book, and that means 8 to 10-year-olds." This is an official thing. It's all about sending messages. It's not actually about the way people think. People think.
Oui, une chose qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que toutes ces catégories marketing, tout ce que prétend le marketing, tout ça, en réalité, ce sont des mensonges, et ils le savent. Mais c'est la façon dont ça marche. Par exemple, on a des officiers de l'armée donc, qui prennent un livre qu'on pourrait imaginer pour enfants, et de la même façon, dans mon cas, quand j'ai fini l'ombre et qu'on parlait avec l'éditeur de la façon dont on allait le vendre, on était en train de parler de tout ce marketing, et en gros, je leur avais dit, en fait... Vendons-le comme un livre pour les 10-12 ans, ça voudra dire que ça s'adresse aux enfants de 8 à 10. Mais voilà, en fait, tout ce que fait ce marketing-là, en fait, finalement, c'est surtout envoyer des messages au public.
Vous êtes d'accord ou, Nathalie, Eric? Oui. Ça se passe comment, vous, quand vous apportez vos manuscrits chez les éditeurs et quand vous commencez à parler des classes d'âge des lecteurs, ça se passe comment avec les éditeurs?
Alors, moi, je ne parle pas de classe d'âge. J'écris, j'ai quelque chose à écrire, il y a une histoire qui a envie de sortir. Après, je cible évidemment la jeunesse parce que moi, c'est mon... Pour moi, il n'y a pas de frontière entre littérature jeunesse et vieillesse. Il n'y en a pas. C'est il y a une histoire, il y a des mots, on y prend plaisir, les adultes vont lire des romans jeunesse, des ados vont lire des romans adultes, évidemment après ça dépend ce qu'on lit, on va pas mettre un gros pavé dans les mains d'un gamin de 5 ans, c'est évident, mais pour moi il n'y a pas de frontière entre littérature, allez, ado et adulte. Moi je discute pas de ça avec les éditeurs, j'écris, j'envoie et après... La plupart du temps, de toute façon, ils ne se plantent pas parce que mes romans, c'est un peu comme toi, c'est, on va dire, entre 12 catégories d'âge, 12-15 ans. Par contre, je fais très attention à la couverture. Moi, je ne veux pas qu'il y ait une couverture bétifiante sur le roman, et alors que le roman est hyper engagé et dénonciateur.
Oui, j'ai... En fait, un auteur ne... Enfin, moi, chez mon éditeur, je n'ai pas trop... C'est pas les sujets que j'aborde. Hein. J'ai pas mon mot à dire sur la façon dont c'est sur la tranche d'âge des romans. Moi, par contre, je me suis battu à un moment donné pour faire enlever derrière certains livres le à partir de, parce que à partir de 9 ans, par exemple, ça veut dire que on peut lire le livre à partir de 9 ans, mais un enfant de 12 ans qui va lire à partir de 9 ans va se dire c'est pas pour moi, alors que c'est tout à fait pour lui, puisque les livres que j'écris, c'est mon noyau dur, c'est 13-14 ans. Mais voilà, donc ça je me bats par exemple pour le faire enlever.
En termes de contenu maintenant, quand vous écrivez des livres pour la jeunesse les uns les autres, est-ce que vous vous limitez sur certaines choses? Est-ce que vous vous limitez sur les contenus? Ou est-ce qu'ils peuvent aborder des contenus un peu difficiles? Est-ce que vous vous limitez sur le champ lexical, le choix des mots, sur la manière dont vous présentez les choses consciemment? Comment vous procédez? Ou est-ce que vous avez des consignes des éditeurs?
Non, moi je ne me limite pas. Et puis tu le sais bien, vu les problèmes que j'ai eus avec certains romans, je ne me limite pas au niveau du vocabulaire, au niveau de l'histoire, j'ai des choses à dire, je vais les sortir. On n'écrit pas évidemment un roman jeunesse comme on va écrire un roman adulte. Il faut quand même que ce soit plus facile d'accès.
Alors, c'est quoi les différences?
J'en sais rien.
Mais, enfin, c'est intéressant. Oui, on va passer la parole à Scott Westerfeld, mais c'est d'autant plus intéressant que China Mieville et Scott Westerfeld, écrivant aussi pour les adultes, quand ils écrivent pour la jeunesse, doivent faire différemment, forcément.
I think that sometimes it's harder to introduce new vocabulary to adults. Teenagers like new words. They're still at a time of linguistic invention. Teenagers write more poetry, write more songs. More of them are engaged in writing themselves. More of them are learning new words. They're learning languages more than adults are. So I think that is the time as a person when you're most linguistically active and engaged in acquiring words. So I think that teenagers are better at soaking up in science fiction, in soaking up new dialogue and slang and things like that than adults are. I feel like I can be more adventurous with a teenager, because if a teenager runs across the word perspicacious, they're like, oh, cool, a new word. An adult's like, oh, you wanker.
Je pense en fait, à la limite, c'est peut-être plus difficile d'introduire un nouveau vocabulaire auprès des adultes, finalement. Parce que les adolescents aiment avoir de nouveaux mots. Souvent, ils sont eux-mêmes engagés dans des activités linguistiques. Ils écrivent des poésies, ils écrivent des chansons. Parfois, eux-mêmes écrivent donc des récits de prose. Ils sont à une époque où ils apprennent des langues. Donc, ils sont souvent, finalement, peut-être beaucoup plus actifs à cet âge-là, au niveau linguistique, que le sont des adultes. Et du coup, ils sont peut-être plus aptes et plus proche des inventions linguistiques. Quand ils tombent sur un nouveau mot, ils se disent que c'est cool ils apprécient ce jeu-là, ils apprécient ce jeu d'invention, ils n'hésitent pas à se montrer aventureux. Donc quand ils tombent sur un nouveau mot, un adolescent va plutôt avoir une impression « Ah, c'est cool !» alors qu'un un adulte va plutôt avoir à dire « Hop, qu'est-ce que c'est encore que cette masturbation intellectuelle ?»
I was wondering what the French for wanker was. I think Nathalie said that you don't see a big distinction between teenagers and adults, and I think on the whole I would agree. I think that there are certain differences about, as Scott saying, language transmission, but in terms of the aesthetic, I don't see a strong difference. For me, there is a difference as when I'm writing and also when I'm reading between what I think of as children's fiction and adult fiction. And I read something like, which doesn't preclude an adult reading the children's fiction or vice versa. But I think within the fantastic, I think there is a difference in the kind of fantasy, the kind of dream logic in something like Alice in Wonderland than there is in something like Scott's books or my books or whatever, my adult books. And it's that category, children's fiction, is one that publishers, I think, are very nervous of. But it's the one that psychologically, I think, is probably the most interesting to me and the one that actually does distinguish the two forms of fiction more.
Oui, pour reprendre ce que disait Nathalie, je suis d'accord avec le fait que donc Nathalie disait qu'il n'y a pas de différence entre la littérature adolescente et la littérature adulte. Il n'y a pas vraiment de différence. Je suis plutôt d'accord. Il y a peut-être éventuellement, comme Scott disait, une différence au niveau de la transmission du langage. Mais en dehors de ça, je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit une frontière bien établie. Je pense qu'il y a une différence quand on lit la littérature pour enfants véritablement et la littérature adulte. Quand on en écrit aussi. Alors évidemment, cette différence-là n'empêche pas une lecture adulte d'un livre pour la jeunesse, mais je pense que s'il y a une différence, il faut peut-être plus se tourner vers la littérature vraiment enfantine, c'est-à-dire que la différence peut-être se trouve au niveau en tout cas du fantastique, avec une différence concernant la logique de rêve qu'on peut avoir quand on part dans la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire une logique un petit peu à la Alice au Pays des Merveilles, qui se sépare un petit peu de la littérature adulte. Et la littérature pour enfants véritablement. C'est une catégorie de fiction. Les éditeurs se montrent un petit peu nerveux vis-à-vis de ça. Ils ne savent pas très bien quoi en faire forcément. Mais finalement, moi, je pense que c'est vers cette catégorie-là qu'il faut se tourner. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Parce que c'est quelque part là où il y a des éléments qui vont nous aider peut-être à différencier la littérature adulte, justement, de la littérature peut-être plus jeunesse.
Pour moi, il y a juste, à la rigueur, s'il pouvait y avoir une différence, ce serait au niveau de la construction du roman. Il faut que l'histoire reste relativement nerveuse pour un ado. Il ne faut pas qu'il s'emmerde, excusez-moi, hein, mais il ne faut pas qu'il s'emmerde, quoi. Sinon, il n'a pas envie de lire. Déjà, que les ados, c'est extrêmement difficile de les faire lire des bouquins. En adulte, en littérature adulte, on peut se permettre, à mon avis, de pouvoir y aller beaucoup plus doucement et puis d'avoir une histoire moins nerveuse. Mais l'adulte, lui, il est beaucoup plus patient que l'adolescent. Ça, c'est mon avis.
Donc, un souci du rythme.
Oui, simplement, je pense que la différence qu'il peut y avoir entre littérature jeunesse ou adulte, en fait, est inclue dans l'histoire elle-même et dans les personnages qui sont mis en place. Quand on fait vivre un héros de 13 ou 14 ans, il faut tomber juste. C'est-à-dire que ce personnage-là va avoir des réactions face aux événements, va vivre des choses qui correspondent à celles d'un héros de 13 ans. Un adulte ne peut pas transposer dans cet enfant sa propre façon de voir les choses, ses propres fantasmes et autres. Donc la différence est imposée dans ce cas-là par les personnages qu'on met en scène, avec le souci de toujours être juste.
C'est pour ça que les auteurs adultes restent adolescents finalement, hein?
I want to suggest that when we're talking about books for younger readers, younger than teenagers, this aesthetic difference is quite important. And I think, for example, about the logic of Le Petit Prince, the actualization of allegory, the way allegory becomes what drives the narrative. To my mind, at the expense of the book, I don't like that book because I think it doesn't work. Compare Alice in Wonderland, where a pun becomes a narrative driver, a misheard word becomes something that pushes the story. I think that is a particular kind of language-based dream logic that is much more amenable to a young reader because they are playing with words in a much more delighted way. So I think that aesthetic difference is very, very hard to carry off. You can't do that kind of thing in an adult book, or it's much, much, much harder. So I do also think, as well as issues of personality, I think there are issues of aesthetics.
J'aimerais proposer une suggestion que la différence peut-être entre justement cette littérature jeunesse et éventuellement au-delà, peut-être qu'il y a une différence d'ordre esthétique. C'est-à-dire si on prend par exemple une d'esthétique dans la logique. C'est-à-dire si on prend par exemple un livre comme Le Petit Prince, Le Petit Prince se base sur une actualisation, une réalisation plutôt, de l'allégorie, c'est-à-dire la façon dont cette allégorie, cette métaphore en fait pousse la narration vers sa conclusion. Bon, à mon humble avis, je pense que je dis ça au dépend du livre parce qu'à mon sens c'est un livre qui ne fonctionne pas, mais si on compare ça avec Alice par exemple, on voit dans Alice au Pays des Merveilles des jeux de mots qui deviennent véritables, qui prennent vie et qui se réalisent véritablement. Donc en fait un jeu de mots peut devenir un argument narratif qui va pousser l'histoire, et ce genre de jeu sur le langage est très particulier et se base justement sur une logique issue des rêves, et je pense que ça plaît beaucoup plus à un jeune lecteur qu'à un adulte, ce genre de jeu sur le mot. Donc je pense que si on cherche une différence, je pense qu'il faut peut-être la chercher, parce que ce genre de jeu sur le langage est beaucoup plus difficile à réaliser, on a beaucoup plus de mal à s'en tirer, à faire passer ça dans un livre adulte. Je pense que s'il y a une différence à chercher, il faut peut-être éventuellement chercher sur un côté d'esthétique de cette logique.
There's a joke that people tell, at least in the US, which is, what is the golden age of science fiction? And the answer is 13. And I think That's really true. When I was growing up, there was no teenage section in the bookstore. The teenage section was the science fiction and fantasy section. And I think the reason why science fiction works for teenagers is because it questions the rules of the world, investigates what the world would be like if there were different rules, it is completely deconstructing this world. Because when you're 13, you haven't bought into it yet. You may not agree with the way the world is set up. You may say, why did these people why did these older people screw everything up like this? And how can we fix it? And that sense drives a lot of science fiction, I think, as well.
Il y a une plaisanterie qu'on raconte aux États-Unis, c'est quel est l'âge idéal pour lire de la science-fiction ? La réponse, c'est 13 ans. Il y a un enseignement à tirer de ça, en un sens, c'est peut-être en partie vrai. Moi, quand j'ai grandi, il n'y avait pas de rayon jeunesse véritablement, c'est-à-dire le rayon qui était étiqueté la jeunesse pour l'adolescence, c'était le rayon science-fiction et fantasy. Et alors, la raison, peut-être, c'est que, justement, les adolescents ont tendance à beaucoup plus remettre en question les rôles, le monde, la façon dont ils fonctionnent. Ils se posent la question, qu'est-ce qui se passerait si les rôles étaient distribués différemment? Donc il y a un peu une espèce d'entreprise de déconstruction qui convient bien à ces genres-là. Et c'est vrai que quand on a cet âge-là, souvent, on n'est peut-être pas forcément d'accord avec la façon dont le monde fonctionne. On se pose des questions, pourquoi est-ce que ça fonctionne de cette façon-là? Pourquoi est-ce que les vieux passent leur vie à tout flanquer par terre? Donc il y a une espèce de petite côté comme ça, un peu, en gros, contradictoire, s'opposant à la façon dont le monde fonctionne. Et puis, c'est, en un sens, c'est un des arguments fondamentaux qui alimente la science-fiction.
Mais justement, c'est intéressant parce que, dans un sens, ce que dit Scott est complète ce que dit China Mieville. Et moi, j'ai envie de renvoyer la question à China Mieville sur ce que tu disais tout à l'heure sur le langage. Est-ce que c'est pas du tout concevable ce type de livre pour les adultes, c'est-à-dire des romans qui fonctionneraient justement avec cette logique métaphorique, cette logique allégorique, cette logique des mots? Est-ce qu'on ne peut pas construire des romans comme ça? Et finalement, est-ce que ce n'est pas comme ça que fonctionne la science-fiction? Et puis si les auteurs français ont envie de répondre, c'est pareil, hein, vous y allez. Hein.
Certainly, it's possible. I think there are certain difficulties with science fiction. For adult readers, we literalize our metaphors, and which is what we do so well. But if we let the metaphor drive, then one begins to get a little bit annoyed, I think, because one feels that the story does not believe itself. Now, I think with children's fiction, that boundary between the wordplay, for example, and the story believing itself is much more fluid. A lot of the fiction, science fiction, written by non-science fiction writers irritates science fiction readers because it subordinates its literalism to its metaphor. And we know that actually we're being told about something, we're not being told something. So yes, it can be done, but I think it's harder, and I think children are much more receptive to that blur, which is why, last thing I promise, which is why you can certainly read and love a children's book for very young readers as a 38-year-old, but when I read it, I feel like a child. There is a nostalgia to the joy.
Oui, c'est certainement possible d'arriver à réaliser ce genre de choses en littérature adulte. Je pense que une certaine différence concernant donc justement la différence entre littérature jeunesse et littérature adulte, et notamment dans la science-fiction, c'est qu'en fait, dans la science-fiction pour adultes, il y a une sorte forme de ritualisation de la métaphore. Et c'est ce que nous faisons très bien dans le monde adulte d'ailleurs. Nous ritualisons les métaphores qui dirigent nos vies. Par contre, si, comme on a tendance à faire dans la littérature jeunesse, c'est la métaphore qui dirige, alors à ce moment-là, il y a une possibilité d'irriter le lecteur parce qu'on a l'impression que l'histoire ne croit pas à elle-même. L'histoire ne se croit pas à elle-même, finalement. C'est la différence dans la littérature pour enfants, où on a cette différence entre les jeux sur le langage et le reste, et le fait avec cette impression que l'histoire croit à ce qu'elle raconte elle-même, je pense que la différence est beaucoup plus fluide. Et je pense que quelque part, c'est un petit peu justement ce qui irrite les lecteurs de science-fiction habituels, quand ils lisent de la science-fiction qui est écrite par des auteurs qui d'habitude n'en font pas, c'est que, quelque part, la ritualisation de l'histoire est subordonnée à la métaphore. C'est-à-dire qu'on ne nous raconte pas quelque chose, on nous parle de la façon dont on est en train de nous raconter la chose. Et c'est probablement un aspect qui, justement, irrite les lecteurs de SF qui sont habitués à la SF classique. Alors, en ce qui me concerne, bon, je pense que, justement, ces histoires pour jeunes adultes fonctionnent très bien et on peut parfaitement les apprécier quand on est adulte, quand on a 30 ans passés. Moi, j'aime en lire à 30 ans passés, mais quand je la lis, j'ai plus l'impression de me sentir comme un enfant, donc il y a une espèce de joie nostalgique quand je la lis.
D'accord. Seulement une joie nostalgique. Enfin, là, je m'adresse aussi à Eric et à Nathalie, parce que quand on regarde les contenus de la littérature pour la jeunesse aujourd'hui, et puis pas seulement en science-fiction en plus, moi, j'ai toujours pensé que c'était des livres finalement beaucoup plus originaux, finalement des auteurs qui prennent plus de risques, peut-être des éditeurs qui les accompagnent plus aussi, peut-être que les éditeurs limitent en adultes, j'en sais rien, mais des livres beaucoup plus originaux pour un public peut-être beaucoup plus à l'affût d'originalité, peut-être beaucoup plus exigeant finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous le ressentez comme ça, mais... Oui, merci. Je trouve que c'est beaucoup plus inventif du côté rayon jeunesse, finalement, que du côté rayon adulte. Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer de cette réflexion, ce que vous en pensez les uns les autres, mais est-ce qu'il y a une recherche peut-être comme disait China Mieville, justement de ces métaphores et de ce jeu sur le réel en permanence dans le texte pour la jeunesse, ce genre de choses?
Bon, je suis très peut-être pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas. Je pense qu'il faut être plus original pour écrire en adulte, parce que quand on écrit pour la jeunesse, on s'adresse à un public qui n'a pas encore, de par son âge, peut-être toutes les références. Il n'a pas pu lire autant de livres qu'un lecteur adulte. Donc, on a plus de chances de le surprendre avec des choses qui ont déjà été peut-être écrites. Moi, ce qui m'intéresse l'écriture de fantasy ou de science-fiction pour la jeunesse, c'est justement de m'emparer de ces codes qui existent, que je n'ai pas inventés, donc ce n'est pas originaux, et de jouer avec, de prendre du recul avec, de délirer avec, oui c'est ça, de jouer avec. L'originalité, si elle se situe quelque part, se situe là, mais elle ne se situe pas sur un fond plus novateur. Je pense qu'il est plus difficile d'innover en littérature adulte qu'en littérature jeunesse, mais ce n'est que mon avis.
Oui, non, je suis d'accord. De rien.
But sometimes I think it's easier to be more innovative when your audience brings less presuppositions to what you're doing. For instance, a lot of adults have complained to me about Leviathan, that it's set in World War I, but there's no trench warfare. Because they know that World War I is the war about trench warfare. But I say to them, you know, it's late 1914, they're still swapping Christmas puddings. You know, that hasn't happened yet, but they still know it has to be about trench warfare because adults have brought this these presuppositions to what they're doing, whereas the young adults don't, you know, they don't care. So in a way, you can do more things because there's less pre-knowledge.
Je pense que parfois c'est plus facile d'innover en littérature jeunesse parce que finalement il y a moins de présupposés. Par exemple, une des critiques que j'ai reçues de la part de lecteurs adultes concernant Léviathan, c'est que donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et on m'a écrit en disant il n'y a pas de guerre des tranchées. Parce qu'ils savent, ils l'ont appris, ils savent dur comme fer que la Première Guerre mondiale c'est de la guerre des tranchées. Et donc ils se sont écrits pour me dire, ils m'ont écrit pour me dire que ça, c'était absent dans le roman. Et j'essaie de leur dire oui, mais alors c'est au début, ils sont encore en train de s'échanger les puddings à Noël, c'est le tout début, ça n'est pas encore arrivé chronologiquement dans l'histoire réelle de la Première Guerre mondiale. Mais comme ils savent, sûr et certain que la Première Guerre mondiale c'est la guerre des tranchées parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, du coup ils ont cette présupposition et ce présupposé ça les gêne. Et en un sens je pense que pour cette raison c'est peut-être plus facile d'innover pour le lectorat jeune parce qu'ils n'ont pas ces présupposés là justement.
And another thing is I think kids are wider readers, they haven't settled into a genre as much. For one thing, I mean, Ellen Hopkins in the U.S. writes these novel-length poems. They're novels in verse about, like, crack addiction. And you don't see that on the bestseller list in the adult world because adults won't read novel-length poems as much. But they're bestsellers in the teen world. So I mean, I think as readers, they're a bit more flexible sometimes in that kind of format. They're more diverse in the kind of formats they'll read.
Une autre chose, c'est que je pense que le lectorat jeune est un lectorat qui est beaucoup plus diversifié. Chaque lecteur va lire des choses beaucoup plus vastes un peu partout, ce qui est peut-être moins le cas pour le lectorat adulte, parce que ces lecteurs jeunes ne se sont pas encore installés dans un genre et n'ont pas encore dit que c'était ça qu'ils lisaient. Il y a un exemple, par exemple, aux États-Unis, c'est un auteur, Ellen Hopkins, qui écrit donc pour la jeunesse, qui écrit des romans en vers, poésie sur, par exemple, l'addiction au crack. C'est un best-seller absolu dans le rayon jeunesse, mais c'est quelque chose qu'on ne trouve pas et qu'on ne pourrait pas trouver peut-être dans le rayon adulte. Peut-être parce que c'est dû au fait que les jeunes lecteurs, les adolescents sont beaucoup plus flexibles dans leur goût, dans ce qu'ils vont lire. Ils ne sont pas encore habitués à un certain format, à une certaine formule narrative, et donc ils sont beaucoup plus prêts à tenter des choses.
En littérature ado, c'est les adultes qui emmerdent le monde. Excusez-moi encore, hein, mais moi j'ai été censurée parce que j'ai dénoncé la pédophilie au sein de l'Église. J'ai été censurée par les adultes. Les ados, quand ils ont lu le bouquin, ils n'ont pas été choqués. En plus, c'est extrêmement médiatisé. Ils n'ont pas été choqués. J'ai jamais eu aucun problème avec les ados. Les adultes, il y a toujours un problème. Si on décrit une scène de viol, si on parle de drogue, si on parle des SDF, si on parle... Il y a énormément de sujets tabous en France et pour les éditeurs. Et les éditeurs sont hyper frileux.
Ça inhibe les auteurs pour justement essayer d'aborder ces sujets ?
Moi, non.
Oui, je sais.
Non. Je me suis fait taper sur les doigts avec ce roman-là. Je me suis dit, j'arrête d'écrire de l'anticipation parce que pour moi, c'est un moyen de dénoncer de ce qui se passe de par le monde. Mais je ne peux pas. J'ai trop de choses à dire. Donc, je continue. Et ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai à dire. Par contre, je vais éviter de retoucher à la religion. Je vais attendre un petit peu.
Ça me paraît prudent.
On en reparlera d'ici quelques temps.
Ouais. Tu as eu des problèmes peut-être, toi, Eric, avec tes livres, avec la censure, ou du moins l'œil de l'adulte sur les romans ados Parce qu'en fait, peut-être que tout le monde ne le sait pas, ce sont des questions qui sont très souvent posées dans la publication pour la jeunesse, pour les ados. On parle des pratiques à risque, des mises en danger. La question, c'est de savoir si tout est bon à dire pour les ados et pour la jeunesse, que moi je crois, hein, l'idée c'est de passer les choses d'une certaine manière, ou s'il faut se limiter s'il y a vraiment des sujets tabous.
Alors le seul cas que j'ai pu connaître de censure, ça n'a pas été le fait de mon éditeur, ça a été le fait de c'est le livre des étoiles, quand il a été traduit aux États-Unis. L'éditeur américain a voulu me faire réécrire toute une scène parce qu'un de mes personnages apparaissait avec une arme à feu. Et donc il suggérait de remplacer l'arme à feu par exemple des boules puantes, enfin des choses complètement délirantes. Et ils avaient déjà demandé à ce que le pays disque, qui est le pays imaginaire dans lequel se déroule l'action, qui se situe dans mon livre au large des côtes bretonnes, comme il se doit. Il voulait que le pays d'Ise soit rapproché des côtes américaines, parce que c'était trop loin, ça ne parlait pas au lecteur. Et puis ensuite, cette fameuse scène qu'il voulait me faire supprimer. Et mon éditeur et moi-même, on a refusé. Et on nous a fait comprendre qu'il ne pourrait pas vendre ce livre-là dans le milieu scolaire. C'est le seul cas.
Vous avez des problèmes de ce type-là, Scott ou China, de censure ou d'autocensure? Parce que vous ne connaissez pas les livres de Nathalie, mais elle y va. Hein.
No. What one sees in Britain, not just in children's fiction. In fact, children's fiction and young adult fiction are probably more open-minded about a lot of these things than adult fiction and the general discourse. There is in Britain at the moment a tremendously strong argument about censorship, with everyone complaining that they are not allowed to say the things they want to say, and then proceeding to say them, and what they tend to be is racist screeds about how annoying Muslims are. And one of the ways in which they justify this is to say that they are not allowed to say it. But the whole issue of censorship is very complicated, because often there is a strong claim that one is being censored, which is totally bogus.
Non, je pense que, en tout cas en Angleterre, pour ce qui est de la littérature jeunesse et de la littérature enfantine, je pense que ce sont des milieux quelque part qui sont limite l'esprit plus ouvert. S'il y a une question de censure concernant le paysage littéraire en Angleterre, c'est que c'est un problème assez complexe qui ne se limite pas simplement à la limite entre littérature jeunesse et adulte. Je pense qu'en littérature jeunesse, les éditeurs sont limite plus d'ouvert d'esprit. Il y a tout un débat extrêmement fort en Angleterre concernant la question de la censure. C'est qu'on a des gens, par exemple, qui proclament haut et fort qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent dire, puis que finalement, ensuite, ils le disent. Et ils se servent de ça pour justifier un certain nombre de choses qui ne seraient pas forcément justifiables à dire. Donc c'est un problème assez compliqué. Par exemple, fréquemment, vous voyez des gens clamer qu'ils ont été censurés, et si vous creusez un peu, vous vous rendez compte que c'est complètement faux. Donc la question de la censure et de la liberté d'expression en Angleterre est un problème assez compliqué en ce moment, mais ça ne se limite pas du tout à la différence entre littérature adulte et jeunesse.
Juste dire que ce fameux épisode qui m'est arrivé sur ce livre, le livre avait d'abord été traduit en Angleterre et sans aucun problème. C'est uniquement quand il a été retraduit, retravaillé pour l'éditeur américain que ce problème étonnant est arrivé.
In a funny way, I've written a lot of things that I think would have been censored if they were mundane fiction. Like in Uglies, my protagonist blows up government buildings and cuts herself and drinks a lot and takes speed and becomes an eco-terrorist at the end, but it's all in the future. So it's some bad future government she's blowing up and not this one. So I think, you know, as Stanislaw Lem learned, you can function under different regimes of censorship better if you write science fiction than if you write any other genre.
En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai écrites que je pense que ça aurait été censuré si ça se passait dans notre cadre aujourd'hui ou dans un cadre contemporain, consensuel. Dans Uglies, par exemple, j'ai mon personnage qui fait sauter des immeubles du gouvernement, qui prend du speed, qui termine en devenant une espèce d'éco-terroriste. Mais tout ça se passe dans le futur. Donc en un sens, ça va, puisque ce n'est pas les bâtiments de ce gouvernement-là qui fait sauter, c'est ceux du gouvernement méchant dans un avenir. Donc comme l'a bien appris Stanislas Lem, finalement, c'est beaucoup plus facile de dire ce qu'on veut et de travailler sous différents régimes de censure où la liberté d'expression est un petit peu tangente, si on part dans le milieu de la science-fiction.
Remember that censorship in the United States is absolutely normal across huge chunks of the country. Your experience is not unique. Every year a list is published by an anti-censorship organization of books that have been censored, taken out of libraries, removed from school districts, banned in towns in the United States. And every year, it's extremely long. There's nothing unusual about this. Occasionally, high-profile books hit, you know, Harry Potter, they're accusing it of witchcraft. But this is absolutely the norm across large stretches of the U.S.
Il faut garder à l'esprit que la censure aux États-Unis, c'est quelque chose qui est normal. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers de la culture qui, à travers le pays, sont retirés purement et simplement. Et donc, votre expérience n'est absolument pas unique, malheureusement, là-bas. Il faut savoir que tous les ans, il y a un comité anti-censure qui publie une liste de livres qui sont retirés des écoles, retirés des librairies, supprimés, qui disparaissent totalement de la circulation, aux États-Unis, et cette liste couvre tous les ans. Et chaque année, elle est extrêmement longue. Malheureusement, il n'y a rien d'inhabituel. Alors, il y a certains livres un petit peu qui sortent du lot. Par exemple, Harry Potter, qui a été accusé de sorcellerie, qui donc échappe un petit peu à ce sort-là. Mais malheureusement, là-bas, c'est la norme.
Les Américains me laisseront toujours pantois. J'ai envie de poser une dernière question à China Mieville, parce que j'ai lu dans ta biographie que tu as un engagement politique assez important. Est-ce que tu te limites dans... Enfin, très très à gauche, pour être précis. Est-ce que tu te limites dans... lorsque tu as écrit L'Ombre, est-ce que tu te limites pour ne pas dire des vérités politiques, ou est-ce que tu as pu exprimer ce que tu voulais comme tu le voulais? Parce que c'est quand même politiquement assez marqué comme livre.
No, I think it is a question of context. So, for example, in Iron Council, I talk quite explicitly about trade union politics and gay politics and stuff like that, which will make sense to adult readers. For a book written for, 10-year-olds, to talk about trade union politics is, not the most engaging thing. But the narrative about rejecting the idea of the chosen one and questioning fate and so on is, I think, very political, but hopefully in a cheerful and enjoyable way. The question of self-censoring on political level, it simply never comes up. It's never something that I worry about. I'm not saying, oh, I'm so brave. I'm saying it's simply, I just don't consider it. It's not an issue, as you said.
Non. C'est... Plus une question de contenu, en fait. Par exemple, quand dans le Concile de Fer, je parle très ouvertement des questions liées à l'homosexualité, de la politique des syndicats et du syndicalisme, il y a des références qui ont un sens pour le lecteur adulte. Donc je pense que pour un lecteur de 10 ans, parler du syndicalisme, c'est pas forcément le sujet le plus passionnant qui puisse être. Mais ça n'empêche pas que, par exemple, je puisse parler dans L'Ombre de la question de rejeter l'idée d'être l'élu, rejeter la question du destin, etc., qui sont finalement des questions assez politiques aussi, mais que j'espère faire de façon un peu joyeuse et entraînante. Donc c'est jamais une question que je me dis. Quand j'écris le roman, je n'arrive jamais à un moment où je me dis « Ouh là là, qu'est-ce que je suis sérieux ?» C'est pas une question qui me vient à l'esprit du tout. Donc, j'ai pas cette espèce de question d'autocensure.
D'accord. Bon. Il nous reste quelques minutes. On va passer la parole au public qui a sûrement des questions à poser. Et je vais faire circuler le micro. Alors, qui s'y colle? Voilà, vous avez une belle brochette d'auteurs... de grands talents, ne me dites pas que vous n'avez rien à leur demander. Ah, une personne plus courageuse que les autres.
Question simple, quels sont les thèmes les plus populaires parmi le public adolescent?
Sex.
Si on le savait, on serait tous auteurs de best-sellers, je pense, mais je sais pas.
C'est vrai que, quelles que soient les thématiques abordées, mais dans mes livres, la recherche d'un grimoire magique et d'un père qu'on ne connaît pas, ou alors une recherche des origines, ou bien d'autres choses, il y a toujours en arrière-fond des personnages qui restent quand même... qui s'interroge beaucoup au niveau du sexe, effectivement.
Right. Now, I think right now what's selling a lot in the U.S. is post-apocalyptic kinds of fiction, and I've always loved that when I was a kid too. And I think the idea of everything breaking down and getting to start over is very appealing when you're about to take your standardized exams. So. Because then you get to rebuild the world without having to know all that stuff, without having to ever learn calculus, basically.
Yeah. En ce moment, ce qui vend vraiment bien aux États-Unis, c'est tout ce qui est post-apocalyptique. Je me rappelle que moi, j'adorais ça quand j'étais gamin. Et en fait, c'est vrai que l'idée d'avoir tout qui s'effondre, tout qui est détruit, et puis de recommencer de zéro, c'est forcément une idée qui est un petit peu séduisante quand vous êtes sur le point d'avoir un examen ou un contrôle quand vous êtes adolescent. C'est vrai que l'idée comme ça, de tout reconstruire de zéro dans un monde où vous n'auriez pas besoin d'apprendre des trucs, de tout reconstruire dans un monde où vous n'auriez pas besoin d'apprendre l'algèbre, évidemment, c'est un peu séduisant.
Oui. S'il nous reste 5 minutes, je vous passerai le micro.
Bonjour, moi je m'interrogeais par rapport à l'âge du héros en fait. Moi je vois souvent la limite entre littérature adulte et jeunesse, c'est l'âge du héros. Je suis libraire et j'ai des lecteurs qui vont me dire non, le personnage est un adolescent, je ne veux pas en lire. Et inversement, si je propose à un parent un livre avec un personnage adulte, ça va bloquer aussi. Comment vous choisissez votre héros justement par rapport à votre public ou...
Moi, je ne choisis pas. Ce sont mes personnages qui viennent. J'ai un gros problème, moi, avec les personnages adultes. Ils veulent en faire qu'à leur tête. Et c'est très, très agaçant. Les personnages qui me viennent le plus souvent, c'est ados. Aller à la limite, c'est, je sais pas, c'est 17, 18 ans, quoi. Vraiment, la limite d'âge. Mais je me pose pas la question... à savoir, quand je vais écrire, est-ce qu'il faut que le personnage soit adulte, est-ce qu'il faut qu'il soit ado? Il vient, il a cet âge-là, et je ne me pose pas de questions.
I think it's something... I think if you try to pre-guess, if you try to think, what should I be writing to make this marketable, I think it would largely be disastrous. I think it is, you know, it's the job to tell the story that you want to tell, whether it's with a 12-year-old, a 6-year-old, a 30-year-old, and then it's the job of your publishers to work out how to sell it to, you know, readers, including 10-year-olds. Some may be more difficult than others, but it would be a lot worse if you tried to write to, you know, it would feel... I think children can tell when they're being sold to.
Je pense que ce n'est pas une chose qu'il faut essayer de deviner à l'avance. Du genre, qu'est-ce que je vais écrire pour que ça puisse être marketé? Donc je pense que quand on essaie justement de faire ça, le résultat souvent est désastreux. À mon avis, le travail de l'auteur, c'est juste de dire l'histoire qu'il veut dire dans la façon dont il veut la raconter, et après c'est le travail de l'éditeur de trouver comment il va la vendre. Je pense que on obtient un résultat bien pire si on essaie justement de forcer les choses, et pire encore, je pense que les enfants savent déterminer quand on essaie de leur vendre quelque chose et quand on essaie de leur vendre une histoire.
I've been enjoying writing in 1914 because teenagers had not been invented yet. You know, back then you went from being an infant to going to the factory or marriage or the army. And so I have a 15-year-old who's a midshipman in the British Navy, and you had 15-year-olds, you know, there was a 13-year-old who wound up commanding a ship at Trafalgar. So this adolescence is very recent. This thing we call being a teenager is a very recent invention. So it's been fun to go to a time before that and to look at the tremendous responsibilities that were thrust upon young people at various times in history.
J'aime beaucoup écrire en ce moment, justement dans les années 40. Enfin, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est une époque où l'adolescent n'avait pas encore été inventé. C'est une catégorie qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire vous commenciez, vous étiez enfant et puis vous passiez directement à aller à l'usine, à vous marier ou à partir dans l'armée. Il n'y avait pas cette espèce de catégorie entre les deux. J'ai un personnage dans Léviathan qui est un aspirant donc sur un navire et à 13 ans s'est retrouvé, puisqu'il est aspirant, à devoir commander un navire à la bataille de Trafalgar. L'adolescent est une convention récente et moi j'ai pris beaucoup de plaisir justement à explorer cette époque-là où cette catégorie n'existait pas, à retourner avant justement l'invention de cette catégorie et à un petit peu étudier les responsabilités parfois ahurissantes qu'on déchargeait sur les épaules de jeunes gens.
And that's one thing I like about writing for teenagers is it's a thing that we're still inventing because the whole idea has only been around less than 100 years of being a teenager. So writing for that group is really interesting to me and in a gnarly and strange way.
Et j'aime beaucoup donc aussi écrire pour les adolescents parce que c'est une catégorie qu'on est toujours en train d'inventer puisqu'elle est très récente, elle a moins d'un siècle. Et donc c'est essayer d'écrire pour ce groupe, pour moi, est extrêmement intéressant et amusant, essayer justement de voir un petit peu comment ces gens fonctionnent.
Bon, on va prendre une dernière question parce qu'on arrive au terme du débat. Je pense que là, vous vouliez poser une question.
En fait, ça se recoupe un peu à ce que vous étiez en train de dire. Je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous écrivez pour les enfants? Qu'est-ce qui vous motive, en fait, pour écrire pour cette tranche-là, enfin, pour la jeunesse, en fait, en général?
Et la question, je vais la doubler un petit peu, parce que je n'ai pas trouvé d'occasion de la poser moi-même. La question est bonne pour les quatre invités, bien sûr, mais surtout pour Scott et China, parce que vous écrivez aussi pour les adultes, et depuis, vous écrivez pour la jeunesse. Donc, comment on passe de l'un à l'autre aussi? Puis là, on va faire causer un petit peu nos Français.
Alors pour répondre sur les, enfin pour à toutes ces questions, en essayant de synthétiser, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture jeunesse, et pourquoi est-ce que mes personnages sont tous adolescents, soit en train d'entrer dans l'adolescence, soit complètement adolescent. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter ce sont des histoires d'initiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les adolescents, comme Scott le disait, une catégorie relativement récente, ont passé de l'enfance, du monde de l'enfance au monde des adultes. On était initié dans son métier, on était initié dans sa fonction par un patron, un supérieur, un maître, etc. Aujourd'hui, c'est une dimension qui a disparu. Et moi, tous mes livres racontent des histoires d'initiation avec des héros qui, à la fin de l'histoire, ont complètement changé en très peu de temps. L'adolescence, c'est quelque chose qui permet ça. C'est une période où on peut changer très, très rapidement. Et donc je les confronte à des situations exceptionnelles, ils sont obligés d'aller chercher en eux-mêmes ce qu'ils sont vraiment, et ils se transforment tout au long de cette aventure. Voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans l'écriture pour la jeunesse, et c'est pour ça que mes personnages ont cet âge-là, parce que plus jeunes, ça ne fonctionne pas comme ça, et plus vieux, ils n'ont plus cette capacité d'évolution. Ils ne peuvent pas... ne concentrent pas en eux-mêmes tout ce champ de possibles.
Moi, pour plusieurs raisons, je pense que la principale, je lis beaucoup, mais la plupart des romans adultes que je vais lire, je saute énormément de passages parce que pour moi, c'est pas assez rapide. Donc, si je me mets à écrire de la littérature adulte, je vais m'ennuyer. Je préfère rester en jeunesse où là, ça speed et puis c'est un récit hyper nerveux. Et la deuxième chose, l'anticipation, c'est un outil pédagogique formidable et ça permet de sensibiliser les jeunes sur ce qui se passe actuellement. Et moi, ça m'intéresse de les sensibiliser, parce que les adultes, c'est même plus la peine.
Ouais.
Ben non, c'est foutu.
Oui, c'est vrai.
For me, and I suspect for most writers, it's a question of the book that you discover you really want to write, rather than thinking, now I will write a book for young adults. And every book that you start to write, the first process is to get into the voice. And you know that you're going to be able to write it when you have reached the voice. And therefore, the difference between, you know, what was difficult about writing On London was reaching the voice. But it was no more difficult than writing Iron Council or writing The City and the City. Every book that I start, you know, there's a couple of months where you're trying to get into the voice. So it's actually a question of how do you go from one book to another, not how do you go from adult fiction to young adult fiction, at least for me.
En fait, je pense que la plupart des auteurs ont plus ou moins le même processus, ont plus ou moins le même problème, entre guillemets, quand ils écrivent un livre, c'est qu'il s'agit de découvrir le livre qu'on veut vraiment écrire. Et pour chaque livre, finalement, la première chose à faire, c'est de trouver la voie avec laquelle on va raconter cette histoire. Et quand on a trouvé cette voie, finalement, on peut y aller. On a un petit peu trouvé l'angle sous lequel on veut écrire le livre. Donc, pour l'ombre, finalement, il a fallu que je trouve cette voie-là. De la même façon, mais c'était pas plus difficile finalement que pour mes romans adultes. On passe à peu près 2 mois avant d'avoir vraiment cerné la façon dont on veut raconter l'histoire. Donc je pense que la question n'est pas tant en ce qui me concerne, en tout cas, de savoir comment est-ce qu'on passe de l'adulte à la jeunesse et inversement, c'est plutôt en fait comment on passe d'un livre à l'autre.
Teenage years are very dramatic. It's the first time that a kiss changes your relationship to your whole body. It's the first time you knowingly betray a friend. It's the first time you make a decision that changes the course of your life. That is entirely your decision. It's the time of all these firsts, and that makes it very dramatic. And if you want to write a story that has big things happening without necessarily needing a 1,000-foot-long, 1,000-mile-long spaceship, you can do it with the teenage world, because the teenage world is so dramatic and intense and full of these firsts.
Les années adolescentes sont des années très dramatiques, très riches en événements. C'est votre premier baiser change la relation que vous avez avec votre corps. C'est la première fois que vous trahissez vos amis. Vous prenez des décisions qui changent entièrement votre vie et vous êtes seul devant cette décision à la prendre vous-même. Bref, c'est un âge où il se passe énormément des choses très importantes et très vastes. Si vous voulez avoir des choses très dramatiques qui se passent sans avoir recours à des vaisseaux spatiaux de 300 mètres de long, l'âge adolescent, ça marche aussi.
Bon, bien, je pense que ce sera le mot de la fin. Voilà. Je vous remercie tous les quatre. Je remercie également Lionel Davous pour la qualité de la traduction. Mais bon, c'est assez habituel, finalement, que ce soit de si bonne qualité. Donc, je vous remercie tous les quatre pour cet excellent débat et toutes ces idées qui ont été lancées. Et je crains qu'on ait un peu explosé l'horaire, donc je vous suggère de rester là pour la causerie suivante. Il y a peut-être des dédicaces des auteurs, mais je n'ai pas le planning de dédicaces. Donc, de toute façon, oui, il y a une dédicace visiblement maintenant des auteurs. C'est à la librairie ? C'est à la librairie, donc je vous invite à vous ruer derrière nos auteurs pour dépenser tout votre... pour leur apprendre, prendre plein de livres qui vous feront passer de merveilleuses heures de lecture. Au revoir.